cela, nous sommes vos ennemis. Nous sommes contre vos idées, contre vos pensées, vos obscénités, votre chrétienté, votre violence. Nous refusons toute idée d'une vie qui serait fatalement réduite au minimum vital.
Et c'est un mort tout en orange.
Les flics tabassent, sortent le P38 et le flic du flingue glace.
Les flics, la police,
les vices. Et par des keufs se font traîner, c'est connu. Dans le Parisien, t'as que les histoires comme as.
Où tu guettes, mec, les flics aussi.
Soit du rouge, aussi rouge que vos bavures.
J'ai mal au cœur quand ta frère meurt.
Un frère meurt.
Un accident de travail, à t'en faire peur de sortir sans voir quoi.
Coucou.
Bonjour. Donc bienvenue dans l'émission du numéro 0. Donc vous êtes sur Radio Dio 89.5 FM à Saint-Étienne. Vous pouvez aussi nous écouter sur radio sur internet, pardon, www.radiodio.org. Voilà, et vite fait, le numéro 0, c'est une émission d'information alternative et participative, et c'est toutes les deux semaines le jeudi. Sur Radio Dio, voilà, à midi, rediffusé à 17h. Et le numéro 0, c'est aussi de temps en temps un journal papier gratuit distribué dans divers lieux à Saint-Étienne. Et c'est aussi et avant tout un site internet, donc alternatif et participatif. Ça veut dire que vous pouvez publier vous-même vos informations. Il n'y a pas de journaliste pour le faire à votre place. Voilà, c'est ça le numéro 0.
Et si vous avez pu consulter le site internet récemment, vous avez peut-être pu vous rendre compte qu'il y avait une semaine de solidarité avec les inculpés du centre de rétention de Vincennes qui avait cramé en juin 2008. Et aujourd'hui, on a décidé de vous passer une rediffusion d'une émission de Fréquence Paris Pluriel, une radio parisienne qui s'appelle Singulier au pluriel. L'émission, elle s'appelle Singulier au pluriel. Et cette émission revient sur l'incendie du centre de rétention de Vincennes. Donc, c'était en juin 2008. Et cette émission invite deux personnes donc du collectif de soutien aux inculpés. Alors, pourquoi un collectif de soutien? En fait, parce que suite à cet incendie, qui avait donc détruit entièrement le centre de Vincennes, alors il y avait 280 places dans ce centre. Et bien suite à ça, une dizaine d'anciens retenus ont été arrêtés et incarcérés en détention préventive, comme ils disent, et inculpés donc pour dégradation, destruction de bâtiments et violence à agents. Et donc les procès, bon, bah finalement de ces inculpés qui en découlent, auront lieu à Paris les 25, 26 et 27 janvier prochains. Donc voilà pourquoi s'est créé un collectif de soutien aux inculpés de Vincennes. Et durant la semaine qui précède ces procès, eh bien, certaines villes organisent des rencontres, des actions ou des soirées donc en soutien, puisque il s'agit surtout d'un soutien financier, hein, puis aussi bon, psychologique aussi. Et donc voilà. Et à Saint-Étienne, le jeudi 21 juin, eh bien, une soirée est organisée dans ce sens-là au local La Dérive. On en reparlera tout à l'heure. Et donc aujourd'hui, cette heure sera essentiellement consacrée donc à cet incendie du centre de rétention de Vincennes et des procès qui auront lieu à Paris donc du 25 au 27 janvier. Et voilà, donc là on va écouter la diffusion donc de l'émission Singulier au pluriel qui date de décembre dernier, si je ne m'abuse, et dans laquelle ceux qui tiennent le micro donc reviennent sur cet incendie, ce qui l'avait précédé, et donc les suites de cet incendie, qui, rappelons-le, avait détruit 280 places en rétention. Et on ne peut que s'en réjouir. Voilà. Donc, bah, à tout à l'heure.
Avec Mélissa et Fred, du collectif de soutien aux inculpés de Vincennes et de RESF. Et donc, ça va être très bientôt hein, le procès des inculpés de Vincennes.
Bah oui, le procès des inculpés de l'incendie du centre de rétention de Vincennes, ça sera les 25, 26 et 27 janvier 2009 à 13h. 2010, pardon, oui, je ne veux pas vieillir. À 13h à la 16e chambre 1 du TGI de Paris. Et ça sera très important d'être très très nombreux là-bas pour les soutenir et faire en sorte qu'ils ne soient pas condamnés.
Voilà, donc comme vous l'avez compris, on va essentiellement parler aujourd'hui donc du procès des supposés, hein, enfin des inculpés de Vincennes. Hein. On rappelle que le centre de rétention avait pris feu. Mais tout de suite, avant de commencer, on va dire un tout petit mot peut-être sur la grève des sans-papiers. C'est qu'il y a plusieurs, enfin on est maintenant à plus de 6000 grévistes. Et comme tout le monde l'a remarqué, il fait froid en ce moment. Donc c'est très sympa de passer sur les sites de grève. Simplement pour dire bonjour, de manifester sa solidarité, mais il y a aussi un tas d'endroits où on peut amener du charbon, où on peut amener des duvets, des sacs de couchage, des pulls, des chaussettes, puisque tout le monde a froid. Alors si vous voulez la liste des sites et des piquets de grève, c'est très simple, hein, il suffit de nous écrire ou de écrire tout simplement à resf.fpp@gmail.com, resf.fpp@gmail.com, ou singulier au pluriel, donc singulier avec un S au pluriel, tout attaché, @gmail.com. Hein, je répète, singulier au pluriel, @gmail.com, et on vous donnera la liste de tous les sites occupés où on peut donc aller dire bonjour, manifester sa solidarité, et aussi amener, si on a des sacs de couchage, des couvertures, du charbon pour chauffer, enfin bon, tout ce qu'il faut pour tenir au moment de l'hiver dans des occupations parfois à l'extérieur. Donc on revient à Vincennes, peut-être rappeler un petit peu ce qui s'était passé à Vincennes avant que ça brûle, parce que et c'était pas la première fois que Vincennes brûlait.
Non, c'était déjà arrivé en 2007, donc il y avait un bâtiment qui avait brûlé, pareil dans un contexte de révolte. Donc là ça en juin 2008, donc c'était après 6 mois de lutte. En fait, c'est l'achèvement, l'aboutissement de 6 mois de révolte, avec des grèves de la faim, des protestations, déjà des départs de feu et des oppositions avec la police. Donc le 22 juin 2008, c'était au lendemain, cette révolte a eu lieu au lendemain d'un décès d'un retenu, Salem Souli, qui est donc décédé parce qu'il n'avait pas eu ses médicaments. Il les avait réclamés, ça lui a été refusé. Et donc le lendemain, le 22 juin, les retenus ont organisé une marche en souvenir de cette personne. Cette marche a été violemment réprimée par la police. Et donc, c'est parti en révolte collective, qui a abouti donc, à l'incendie du centre.
Je crois que j'ai rien à rajouter. Oui, en fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'aboutissement de 6 mois de lutte qui avait commencé, je crois exactement, le 21 décembre 2007 au Ménil-Amelot. Avec des retenus qui avaient mis sur leur t-shirt des revendications et qui avaient appelé la presse pour faire connaître leurs revendications. Alors, leurs revendications, c'était la liberté, évidemment. Et suite à ce mouvement, l'administration a transféré des retenus à Vincennes. On était vers le 27 ou 28 décembre 2007. Et là, à Vincennes, au lieu que ça s'éteigne, ça s'est propagé et ça a continué pendant 6 mois. D'ailleurs, au long de ces 6 mois, il y a également eu plusieurs départs de feu, dont un a conduit des retenus à passer devant le tribunal. Et ils ont été très peu condamnés à l'époque. Je crois que c'était du sursis, un ou deux mois avec sursis. C'était, on va dire que c'était dans le feu de l'action et qu'à ce moment-là, l'administration avait plutôt envie de qu'on parle pas de ça, quoi, et donc de ne pas faire en sorte de focaliser sur des personnes alors que les révoltes avaient lieu. Et puis maintenant, on a changé de contexte. Et puis surtout, l'incendie du 22 juin, lui, il a entièrement détruit le centre.
Le centre qui est reconstruit, qui est de nouveau opérationnel. Et je propose qu'on écoute quand même un petit reportage qu'on avait fait avec Nadia, hein, qui fait l'émission L'Envolée sur cette même radio, le 22 juin. C'était devant le centre de rétention. Enfin, on était devant le centre de rétention et ça s'est fait par téléphone avec des gens qui étaient à l'intérieur. Et on pourra se rendre compte un petit peu du contexte de violence dans lequel c'est, de violence extrême. Alors, on pardonnera les imperfections techniques de ce reportage parce qu'en fait, ça a été fait, ça a été enregistré avec un téléphone portable, hein, le magnétophone, le micro posé sur le haut-parleur du téléphone portable. Il y avait de la lacrymo partout. Il y avait Nadia qui regardait les gendarmes qui étaient derrière moi, moi qui regardais les gendarmes qui étaient derrière Nadia, et on se déplaçait comme ça. Donc on retourne, hein, c'était il y a un an et demi à Vincennes.
Il y a du monde partout par terre parce qu'ils nous ont gazé avec les gaz lacrymogènes.
Ouais.
Et il y a eu deux morts.
Deux morts, un hier soir.
Hier soir et un aujourd'hui.
À quelle heure aujourd'hui?
Dans le feu, à peu près, 15h30.
Mais tu veux dire avant le feu, avant la mise du feu ou pendant?
Il est mort dans le feu.
Il est mort dans le feu, d'accord. Tu en as la certitude?
Comment?
Tu en as la certitude?
Si, c'est sûr et certain.
C'est sûr et certain. Et là, qu'est-ce qui se passe pour vous?
Ouais, là, ils ont tous réunis dans la cour, et puis voilà, quoi, ils ont essayé d'identifier les gens par leur nom et tout. Et puis on ne sait pas ce qui va se passer après.
D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été évacués pour le moment?
Bon, pour le moment, à peu près, on est 300 personnes, à peu près. On est tous réunis dans la cour, ils sont en train d'identifier des médecins aux alentours, des CRS et tout le monde. Voilà.
D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup de blessés?
Ouais, apparemment, il y en a plein par terre.
Ouais. Quand tu dis plein, ça veut dire quoi un peu? Est-ce que tu peux donner un chiffre?
Oui, parce que il y a eu ils nous ont gazé, on était dans les chambres. Ils nous ont gazé et puis après, il y a eu le feu, il y en a qui n'ont plus le feu après, donc on est tous là, on attend, on ne sait pas ce qui va se passer après.
D'accord. Ben bon courage à vous. Nous on est de l'autre côté, on n'est pas très très nombreux, mais on est avec vous. On est avec vous. Bon courage.
Regarde ici, il y a trop de problèmes, il a laissé un gaz. Je sortis comme à mourir, il passe à nous laisser mourir. En plus, policier, il fait taper comme un chien. Je ne sais pas pourquoi il est arrivé un problème comme ça. On a dit juste liberté, liberté. Il a dit non, il ne crie pas liberté parce que nous c'est décédé. Et quand on fait ça, nous les voir journalistes, pour ça on a content. On a dit liberté, liberté. Ça c'est on a droit.
Bien sûr.
Liberté.
Bien sûr.
Il commence le problème. Il y a une personne qui est mal tapée. Il a perdu son tête, comme ça, il passait, et qu'on vient, du coup, il fait une minute, il est attrapé, il tape dans le haut de tout le monde, comme ça, tout le monde qui prend le fâché, pour tout le monde qui commence le triste, il est arrivé à un gros problème, il a laissé le feu, comme ça, une personne qui l'a arrêté, pour le faire comme ça, qu'on apprend le gros problème. Mais il laissait le gaz, ça, c'est une grande chose. On a dans la chambre, tout le monde, dans la chambre, on a fait comme mourir. Moi, je veux de mon lésion, à mourir qui est arrivé. Je commence mon peuple qui Dieu protège nous. Ça, c'est le dernier point. Mais après, on a sorti de là, il est ramené ici, il a dit, c'est pas grave, nous tous avec nous, avec on a aidé dans vous. C'est pas la peine, qui m'aide maintenant, c'est pas la peine, laisse-le mourir. Pourquoi il ne laissait pas mourir? Mais on a vu le mort, et comment c'est quoi le mort? Ça, c'est un aveu. J'espère que vous êtes un journaliste qui comprend tout ça en problème. Le journaliste qui l'a aidé d'ici, sinon on a fait mourir ici, on a regardé comme un chien. Viens, fais ça, mon ça, ne fais pas ça, ne fais ça. Là, il ne pas donner liberté, même pas donner rien du tout pour rasoir, aux armes, barres. Et ça, on l'autre la loi comme Afghanistan. Comme le Irak, c'est pas Irak, ça c'est en France. Mais pourquoi ils donnent pas la liberté de limite? Elle est trop dure ici. Comme le pirate de Taliban. Ici, dans un anneau de Taliban, dans la zone. C'est pas un sol, ça c'est un petit toilette. Il est même laissé gâche partout. Tout le monde y regardait à mourir.
Tu est-ce que tu confirmes toi le fait qu'il y a quelqu'un qui est mort cet après-midi?
Oui, il y a un quelqu'un. J'espère qu'il est mort parce qu'il est beaucoup gaz de sa tête. Il n'est pas laissé pour les aider à lui. Bon, je ne sais pas, ça c'est ce soir. J'espère qu'il va sortir le journal, mais le policier est caché tout. Ça c'est caché.
Il est mort, excuse-moi, il est mort comment? Est-ce que tu peux dire comment il est mort?
À cause de taper, il tapait avec le pied, le policier avec le perche, le police, le noir perche, fort, comme ça il tombait, il sortit le son de sa bouche, comme ça on voit, il beaucoup sortir le son. Après il a amené, je ne sais pas, pour pied, le policier qui fait sortir, je ne sais pas où et où il est. Mais pas un personne, peut-être trois têtes, c'est pas un personne, il y a plein.
Ok.
C'est comme ça. On va voir qu'est-ce qu'il y a à faire le journaliste pour nous.
Écoute, on essaye de faire tourner de toute manière cette information. Et puis courage à vous.
Ouais, un personne hier, il est mort parce qu'elle est malade de corps. Écoute, ça bien. Hier, un personne qui criait, j'ai malade de corps, ramène-moi s'il te plaît dans la pétale. Le policier l'a ramené avec le docteur qui l'a donné un petit tablette de dormir. Il a dit non, c'est ça va, dormir. Il mangeait le matin, voilà, il est mort. Ça c'est un grand. Parce que le docteur aussi, il sait pas pourquoi il fait bien examen dans lui. Il faut qu'il a fait bien examen dans lui. Comme ça, il ne jamais mourir. Mais un jaune devant trois eaux. Un jaune. Il même pas fait mariage. Ben, un jaune, ça une grosse chose. Aujourd'hui aussi, il y a 3-4 personnes à peu près. Et il mal de cours, lui. Le matin, il a arrêté sa cour. Pour essayer de faire ça, il va réussir à arriver. Il fait mourir.
D'accord, cette information elle a un petit peu circulé déjà quand même aujourd'hui. C'est bien que tu donnes plus de précision. On essaiera de te rappeler plus tard. Bon courage à vous tous, vraiment.
Merci à vous.
Au revoir et à bientôt.
Au revoir, merci gentil.
Donc ça, c'était un petit reportage qu'on a fait avec Nadia au moment où ça brûlait. Encore, bon, on entend, c'est dans des conditions qui n'étaient pas évidentes. Fred, tu réagissais tout de suite à chaud?
Non, j'allais dire, bah ça, c'est le 22 juin, donc le jour de l'incendie, où ça a créé beaucoup d'émoi dans les têtes, dans les médias, etc. Et puis, il y a eu l'après-incendie, qui a quand même été assez vite oublié, notamment pour les personnes qui ont été inculpées. Donc, bah, moi, je voulais juste un petit peu parler de cet après et de ce qui s'est passé à partir du 23 juin. Donc, le soir même de l'incendie, tous les retenus ont été transférés vers d'autres centres de rétention. Et il y en a deux qui, eux, ont été immédiatement arrêtés. Sur ces deux qui ont été arrêtés, il y en a un qui n'a par la suite pas été inculpé. Il a obtenu le statut de témoin assisté. Donc, celui-ci, on n'en parlera pas. Et il y en a un autre, Ali Diallo, qui va passer là en procès, dans le procès qui aura lieu le mois prochain. Donc Ali Diallo, arrêté immédiatement, emmené au commissariat qui est rue Louis Blanc. Très vite, des militants, enfin des personnes qui s'étaient mobilisées le jour de l'incendie, arrivent à savoir qu'ils sont dans ce commissariat. Et deux soirs de suite, il y a des rassemblements qui sont organisés, assez importants, devant le commissariat. Et le lendemain, quand ils sont déférés devant un juge, il y a des personnes qui attendent pour montrer leur soutien. Et du coup, Ali Diallo est remis en liberté. Malheureusement, l'État fait appel de cette remise en liberté et il est convoqué pour cet appel. Malheureusement pour lui, il y va, ce qui prouve sa bonne foi, ou enfin, je ne sais pas comment on appellera ça. Il y va et là, il est réincarcéré et il restera en prison pendant exactement 11 mois. Je dis malheureusement, il y va parce que quand on est convoqué comme ça pour un appel, on n'est absolument pas obligé d'y aller. Hein. On peut rester dans la nature si on veut. Ensuite, il y a Ekma Mouktaré, qui est un très jeune homme qui d'ailleurs avait 18 ans, à peine 18 ans au moment de l'incendie, qui lui faisait partie des gens qui avaient été transférés au centre de rétention de Lille. Donc au centre de rétention de Lille, bah, Ekma, on lui dit à la fin de sa rétention, bah, voilà, maintenant tu es libre, tu peux partir. Et sur le parking du centre de rétention, qu'est-ce qu'il attendait? Des flics en civil qui, pareil, l'ont amené à Paris, l'ont interrogé et il a été incarcéré donc de juillet jusqu'à mars 2009. Il est sorti en mars 2009, ECMA. Et on peut dire qu'il a été quand même très, 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 très touché, très, très traumatisé par les 8 mois de détention, de prison qu'il a passé. Pendant ce temps-là, il y a d'autres détenus qui avaient été transférés à Oissel, c'est-à-dire à côté de Rouen, qui eux aussi ont été arrêtés. Alors eux, les flics sont venus directement les chercher au centre de rétention. Il s'agit de Moïse Diakité, dont on a plusieurs fois parlé sur cette antenne, dont Yves a plusieurs fois parlé dans ses émissions. C'est un père de famille du 13e arrondissement, un monsieur qui a 7 enfants, qui est en France depuis 1991. Et avec lui, il y avait Slaydin El Ouartani, donc un travailleur tunisien, enfin un monsieur tunisien, et ils ont été incarcérés. Alors là, je vais m'arrêter un petit peu, parce que chacun a suivi des parcours différents. Moïse Diakité, il a été remis en liberté très vite après, en raison de sa situation familiale. Et pareil, il y a eu un appel du juge. Le jour de l'appel, sa femme accouchait, donc il n'a pas pu y aller. Et il a été considéré comme en fuite et arrêté 3 mois après, alors qu'il se rendait à son travail en vélo dans le 5e arrondissement. Et il a été incarcéré suite à ça 6 mois.
Quand il a été arrêté, d'ailleurs, je crois qu'il avait fait toutes les choses en règle, qu'il avait prévenu le parquet, la police, qu'il ne pouvait pas se rendre, qu'il ne pouvait pas se déplacer, en expliquant pourquoi, c'est que sa femme accouchait et qu'il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui garde les enfants à la maison.
Voilà, exactement. Mais de toute façon, le juge en appel avait décidé qu'il serait réincarcéré, comme pour Ali Diallo. Slaydin El Ouartani, lui, il a été mis à la prison de Fresnes. Et là, la prison de Fresnes, en novembre 2008, le 4 ou le 5 novembre, il s'est passé quelque chose. Alors quoi, on ne sait pas, puisque suite à ça, il a perdu la mémoire sur ce jour-là. Il aurait été frappé par son co-détenu, ou on ne sait pas. En tout cas, il est tombé dans le coma, un coma qui a duré 5 mois. Et aujourd'hui, il est toujours hémiplégique. Je ne sais jamais comment dire. Enfin, en tout cas, il est toujours à moitié paralysé et très gravement touché, notamment parce qu'il y a eu énormément de retard dans les secours à la prison entre le moment où il a été découvert et le moment où il a été évacué vers un hôpital. Et vu son état, M. El Ouartani ne passera pas en procès. Hein. Je pense que les juges n'avaient pas forcément envie de voir arriver quelqu'un en chaise roulante ou sur un lit. Du coup, M. El Ouartani a bénéficié d'un non-lieu. Donc je continue sur les inculpés, c'est un peu compliqué, je suis désolée.
Non, mais en tout cas, c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit qu'il y a des tas de gens qui ont enfin, 10 personnes, oui, qui ont chacune un profil différent, et en même temps, ça montre bien tous les gens qu'on peut rencontrer dans un centre de rétention.
Oui.
Et c'est le gamin qui pour être au lycée et qui se retrouve en centre de rétention. C'est le père de famille qui va travailler tranquillement en vélo, qui se fait arrêter. C'est voilà. C'est.
Bah c'est en fait ça peut être tous les gens à qui la France refuse de donner des papiers, puisque malheureusement on a. On vit dans un monde où il faut des papiers, semble-t-il, pour exister. Et donc, tous les gens à qui on refuse ces papiers parce que c'est des étrangers pauvres, hein, on va dire ça comme ça, souvent c'est ça, c'est parce que c'est des gens qui viennent de pays pauvres et qui eux-mêmes appartiennent à des classes sociales défavorisées, parce que si on est un fils d'ambassadeur, en général, ça va mieux. Tous ces gens-là peuvent, à un moment donné, se retrouver en centre de rétention. Et se retrouver en centre de rétention, finalement, on voit où ça peut amener. Après, ça peut amener très vite à la prison. Et puis, dans des cas dramatiques comme M. El Ouartani, la prison, ça peut. Enfin, il y a beaucoup de morts en prison, quoi. Il y a beaucoup de gens qui sont blessés, qui ont des graves problèmes. Donc, pour continuer sur les inculpés, ensuite, il y a Mahamadou Dramé, qui, lui, avait été transféré à Nîmes, a été libéré. Et mi-juillet, a été arrêté par la police qui avait lancé une géolocalisation de son téléphone portable et qui, grâce à cette géolocalisation, l'ont retrouvé sur le lieu de travail, sur là où il travaillait avant de se faire arrêter et là où il était retourné pour travailler. Donc il a passé, Mamadou, il a passé 11 mois en prison aussi, lui. Après, donc, il y a eu un autre inculpé qui s'appelle Hassan, qui a été arrêté en octobre, qui a fait 4 mois de prison. Et puis un autre, Mohamed Salah, qui lui était, enfin tranquillement, oui, on va dire ça comme ça, il était tranquillement chez lui début décembre, et à 6 heures du matin, les flics ont débarqué chez lui. C'est-à-dire que donc, évidemment, il ne se cachait pas, il ne savait même pas qu'il était inculpé pour l'incendie du centre de rétention de Vincennes. Apparemment, c'est à force de... C'est en étudiant, je ne sais pas trop comment. En tout cas, ils ont décidé qu'il faisait partie des gens qui étaient censés avoir mené la rébellion. Et donc, ils sont allés l'arrêter chez lui 6 mois après l'incendie. Et il est ressorti, il a été mis à la santé, il est ressorti en mars. Et puis, on arrive au dernier inculpé. C'est Nadir Othmani. Nadir, comme Ekma, c'est un très jeune garçon qui a 20 ans. Maintenant, aujourd'hui, donc il en avait 18 à l'époque. Et pareil, comme Mohamed Salah, Nadir, il ne savait pas du tout rechercher, puisque lui, il a été arrêté en juin 2009, c'est-à-dire exactement un an après l'incendie, à Barbès, donc une rafle à Barbès, comme il y en a tant. On l'arrête, on lui demande ses papiers, il n'en a pas. Donc Nadir, il pourrait très bien dire un autre nom. Il pourrait dire qu'il s'appelle Tartampion, enfin, je ne sais pas comment. Mais il dit son nom, Nadir Othmani, et là, clac. On dit, ah bah lui, il est recherché dans le cadre de l'incendie du centre de rétention de Vincennes. Et depuis, Nadir donc, est en prison dans des conditions qui méritent qu'on s'y arrête et dont Mélissa va parler.
Oui, je crois qu'il faut vraiment qu'on s'y arrête sur les conditions de détention de Nadir.
Oui, donc il a arrêté en juin, le 6 juin exactement. Donc ce qui va se passer, c'est que donc on va prendre contact avec lui. Il y a des demandes des permis de visite qui vont être demandés. Et à chaque fois, pour ces permis de visite, soit l'administration perd le dossier, elle égare plusieurs dossiers. Après, on nous dit que ce n'est pas le bon bureau. Enfin bref, toutes sortes de prétextes sont donnés. Résultat, 6 mois après, il n'y a toujours aucun permis de visite qui a été accordé. Donc pour l'instant, il n'a pu avoir aucune visite, sachant qu'il est... C'est un peu comme Ekma, il est relativement traumatisé par son expérience en prison. Il ne comprend absolument pas pourquoi il est là. Et donc, par rapport au permis de visite, ça me prouve qu'il y a quand même quelque chose qui va pas. Et,
il a fait une grève de la
faim. Il a fait une grève de la faim il y a un mois. Il a été transféré donc, à Fresnes, il est passé à l'hôpital. Il est resté encore à Fresnes, puis il était transféré à nouveau à Fleury. Donc il a été ballotté de prison en prison et donc toujours sans possibilité de visite. Quoi.
Sans possibilité de visite, puis alors l'acharnement, ça va même, comme il n'a pas de permis de visite, qu'on, pourtant tous étaient bien demandés, hein, en bonne et due forme. Par exemple... on veut pas, enfin, on lui fait des difficultés pour avoir, enfin, ça paraît bête, mais pour avoir son colis de Noël, puisque en prison, au moment de Noël, on a le droit d'amener un colis au prisonnier qui fait 5 kilos, je crois. Mais voilà, quand on n'a pas de permis de visite, il faut demander l'autorisation au directeur de la prison. Et alors, effectivement, demander l'autorisation au directeur de la prison, par exemple, quand on ne sait pas très bien écrire le français, ça peut sembler compliqué. Et puis, si c'est comme pour les permis de visite, peut-être que le directeur de la prison risque de répondre après la date. Donc, on a vraiment l'impression qu'il y a d'acharnement par rapport à lui.
Oui, toutes ces demandes de mise en liberté ont été rejetées également, puisqu'il y en a eu plusieurs de déposés, et rejetées au motif que certains autres inculpés ne respecteraient pas leur contrôle judiciaire ou qu'ils n'auraient pas les garanties de représentation suffisantes, alors que le dossier est complet et qu'il n'y a rien à redire. Donc pour l'instant, ça a toujours été rejeté. Donc ce qui paraît probable, c'est qu'ils paraissent détenus au procès. Quoi. Oui. Ça, c'est assez grave.
Oui, c'est très embêtant. C'est évidemment très embêtant pour lui parce que c'est toujours plus compliqué de comparaître détenu que comparaître en liberté devant des juges. Et par rapport à ces refus de demande de remise en liberté, là, il y a donc l'un des motifs qui est invoqué par les juges, c'est qu'il y a d'autres inculpés qui respecteraient pas leur contrôle judiciaire. Et là, il faut savoir quelque chose. C'est drôle, enfin je ne sais pas si on est cynique, on va trouver ça drôle, c'est que l'un des inculpés, Mohamed Salah, on dit qu'il ne respecte pas son contrôle judiciaire, c'est juste parce que comme il n'a pas de papier, chaque fois qu'il va pointer au commissariat, le commissariat dise non, on ne peut pas savoir si c'est vous. Donc en fait, c'est les flics qui refusent d'avaliser son contrôle judiciaire. Mais lui, à chaque fois, il y va. Il a même voulu avoir un papier, une lettre écrite par la police pour dire bah, « Voilà, nous, on ne peut pas considérer que ce monsieur pointe parce qu'on ne peut pas être sûr que c'est lui. » Mais non. Et donc, on refuse un permis de visite à Nadir Othmani sous des prétextes comme ça, alors que bon, c'est une mauvaise volonté de la part des flics et de l'administration par rapport à des autres prévenus.
Voilà. Et pour en venir donc au procès qui va se tenir très bientôt, avant de venir à ce procès, je propose qu'on écoute un petit peu de musique et qu'on écoute Dougar joué par Moriba Koïta, et je trouve que c'est une musique qui va bien avec. Voilà, on devrait écouter Dougar tout de suite. Donc, on continue sur le procès des inculpés de Vincennes et on parlait, en écoutant Dougar, là, sur quelle base avaient été arrêtés, pourquoi avaient été arrêtés les inculpés et de l'instruction qui était, je crois, menée essentiellement à charge.
Oui, c'est ça. Donc, les différents inculpés ont été arrêtés sur la base des bandes vidéo retrouvées du centre de rétention et sur des témoignages de flics. Donc les bandes vidéo de qualité assez médiocre et donc les témoignages de quelques flics qui étaient présents au moment de l'incendie. Et donc par rapport à cette instruction, c'est vrai que c'est une instruction qui a été complètement à charge. La preuve, c'est que les avocats ont fait des demandes de pièces complémentaires et qui ont été rejetées en bloc. Donc, en pièces complémentaires, il y avait l'intégralité des bandes vidéo, puisqu'en fait, il n'y a que 2 heures et quelques de vidéos qui ont été vues. C'est un montage qui a été fait par les flics. Donc, les avocats n'ont pas du tout eu accès à l'intégralité des bandes vidéo. Ils ont demandé aussi à avoir le dossier concernant le décès de M. Salem Souli, les différents dossiers, enquêtes, je ne sais pas si c'est des enquêtes par rapport à l'usage du taser qui avait été fait en février 2008, donc à Vincennes, et aussi les communications avec les pompiers. Donc ce genre de pièces qui sont quand même importantes ont été rejetées en bloc.
D'ailleurs, en parlant d'instruction à charge, pour la petite histoire, le juge qui a fait l'instruction, monsieur le juge Nguyen T, c'est aussi le juge qui s'était révélé, on va dire ça comme ça, un an auparavant, puisque c'est lui qui était à l'origine de la rafle qu'il y a eu à Terre au Curé. C'est lui qui avait diligenté la chose.
Donc on a beaucoup parlé sur cette antenne et on peut retrouver les 2 émissions qui avaient été faites sur la rafle de la Terre au Curé, 2 ou 3 émissions, je ne sais plus, sur les archives de RESF, RESF sur FPP, sur le site RESF.
Sur l'instruction à charge, et sur pourquoi les inculpés... Sur quelles bases ils ont été choisis, on va dire ça comme ça, puisque la révolte, c'était un petit peu tout le monde. Il faut savoir que c'est des gens qui s'étaient fait remarquer les jours auparavant. Par exemple, Nadir, il était en grève de la faim. Il a fait une grève de la faim pendant qu'il était à Vincennes, donc il s'est fait remarquer. Et puis d'autres qui se sont fait remarquer parce que 5 jours avant l'incendie, ou 4 jours, la CIMADE n'était pas présente. Enfin, depuis le mercredi après-midi, la CIMADE n'était pas présente dans le centre de rétention. Ils avaient un stage ou une session de je ne sais pas quoi. Et donc, il y a plusieurs des inculpés, comme par exemple M. El-Ouartani ou Moïse Diakité, ils sont arrivés pendant cette période où il n'y a pas la CIMAD. Donc, quand un retenu il arrive en centre de rétention, la première chose qu'il demande à faire, souvent, c'est voir la CIMAD pour rédiger des recours pour les choses juridiques. Et là, il n'y avait pas la CIMAD. Donc, obligatoirement, dans cette situation, les inculpés, enfin, pas les inculpés, les retenus, bah, ils protestent, ils gueulent, parce qu'ils ont envie que leurs droits soient respectés quand même. Et ça ne l'est pas, et là ils se font remarquer. On a bien vu que plusieurs des personnes inculpées étaient dans ce cas de figure de gens qui se sont fait remarquer parce qu'ils étaient un peu plus grande gueule ou parce qu'ils ont voulu faire respecter leurs droits les jours auparavant.
Voilà. Voilà. Et donc il y a eu une audience déjà il y a, au début du mois, il y a 2 semaines.
Oui, c'est ça. Donc, le 1er décembre, donc à la 16e chambre, il y avait l'audience de fixation du procès. Donc, il y a eu pour but de fixer les dates du procès. Mais en fait, il y a eu un petit peu plus, puisqu'il y a une des avocates des inculpés qui a tenté de faire valoir une nullité juridique. Je ne suis peut-être pas en mesure de rentrer dans les détails. En fait, c'était par rapport aux pièces complémentaires qu'elle avait demandées. Il y a eu un rejet. Elle a fait appel et l'ordonnance de renvoi a été établi avant la réponse pour l'appel, je crois que c'est ça.
En fait, je crois que c'est un petit peu comme si on n'avait même pas attendu qu'elle ait déposé son appel et qu'il y avait déjà eu la réponse à son appel, donc ce qui est quand même assez incroyable. C'est avant même qu'elle demande quelque chose, on lui a répondu non. Voilà.
Donc c'est ce qu'elle a essayé de faire valoir, et donc faire valoir cette nullité et... Au final, donc, la juge, Madame Dutartre, a estimé que ce n'était pas valable, qu'éventuellement, ça serait traité lors du procès. Donc voilà, et c'est vrai que lors de la fixation, ça a été un petit peu quand même houleux, puisque le procureur a tout de suite dit que donc, cette avocate faisait une intervention politique alors qu'elle était sur des points de droit strictement juridiques. Donc, la première chose qu'il a dit, c'est non, c'est une intervention politique, ça n'a rien à faire ici, et etc. Quoi.
Voilà.
Moi, j'y étais pas. Donc, mais d'après ce qu'on m'a raconté, en face, c'est-à-dire les juges étaient assez bloqués. Ça sera les mêmes juges qu'il y aura les 25, 26 et 27 janvier. Ce qu'on m'a dit aussi, c'est que la salle, c'est quand même un procès important, le procès de l'incendie du centre de rétention de Vincennes. Et comme par hasard, la salle qui a été choisie est assez petite. Donc l'État a envie qu'il y ait le moins de témoins possible, quoi. Ce qui n'empêche qu'il faudra quand même être là, même si c'est pour être dehors devant la salle d'audience.
On peut peut-être, on le rappellera de toute façon en fin d'émission, mais donner l'heure précise et le numéro de la salle.
Oui, bien sûr. On peut tout de suite dire que ça sera à 13h30 et ça sera la 16e chambre 1. Parce qu'apparemment, il y a aussi la 16e chambre 2, la 16e chambre 1. Et il y a un truc très important qu'on doit rappeler, c'est que notamment à RESF et puis ailleurs aussi, on a beaucoup communiqué le numéro d'écrou de Nadir Othmani en insistant pour que les gens lui écrivent, parce que quand on est en prison, qu'on n'a pas de visite, qu'on est tout seul, ça fait vraiment du bien de recevoir des courriers, des cartes postales, des courriers d'encouragement. Et malheureusement, l'avocate de Nadir nous a donné un mauvais numéro d'écrou et on s'en est rendu compte hier en essayant de faire en sorte qu'il soit visité par un sénateur. Donc Mélissa, tu vas peut-être redonner son adresse avec le bon numéro.
Donc, alors, son nom, c'est Othmani Nadir. Donc, Othmani, A-U-T-M-A-N-I, Nadir. Donc, le bon numéro d'écrou, c'est 377-079, bâtiment D4, maison d'arrêt des hommes de Fleury-Mérogis, 7 allée des Peupliers, 91-700, Fleury-Mérogis.
Voilà, donc on le rappellera aussi en fin d'émission. Et je crois que c'est très important de lui écrire, comme tu le disais, pour lui soutenir le moral, montrer qu'il n'est pas tout seul, surtout s'il a pas le droit, parce qu'il n'a pas réussi à avoir de visite jusqu'à présent. Peut-être que maintenant, ça va être levé, ça.
Non, parce que maintenant que l'instruction est terminée, ils disent qu'on ne peut plus demander de nouveaux permis de visite, sauf si on est de sa famille. Et donc, il a beaucoup d'amis ici. Bon, alors, bon, y a nous, mais sinon, il y a aussi des amis à lui qui ont demandé des permis de visite, des gens qui connaissaient avant nous, quoi, enfin, qui le connaissent depuis longtemps. Et apparemment, c'est pas possible. Alors, je sais pas, quand on n'a pas de famille, quand on est orphelin, ce qui se passe, on n'a pas le droit de voir des gens, c'est un peu bizarre, mais voilà. Ça a l'air pas très bien parti.
Ah, et donc, il va y avoir maintenant, donc le procès va démarrer donc le 26, 27, 28.
25, 26, 27.
Lundi
25, mardi 26, mercredi 27.
Voilà. Et sinon, il va y avoir, donc avant, ça a commencé, je crois, le 16, une semaine de solidarité avec les inculpés.
Voilà, une semaine avant le procès. Donc, il y aura une semaine de solidarité. Alors, une semaine de solidarité où il y aura des événements qui seront organisés par le collectif de solidarité avec les inculpés. Mais où aussi on invite chaque personne, chaque groupe à faire aussi quelque chose en solidarité avec les inculpés. Hein. Ça peut être, je ne sais pas, je ne vais pas orienter les gens dans leurs idées. Donc nous, en tout cas, le premier rendez-vous qu'on peut donner, parce que cette semaine sur les rendez-vous qu'on va donner, elle est encore en construction, c'est le samedi 16 janvier à 19h au CICP, c'est-à-dire 21 Terre rue Voltaire. Il y aura une soirée débat et projection autour des centres de rétention et de ce qui s'est passé au centre de rétention de Vincennes, de l'incendie. Voilà. Il y aura une autre soirée projection qui est déjà calée.
Oui, donc le samedi 23. Il y aura une soirée débat-projection autour des luttes dans les centres de rétention en Europe et plus généralement dans le monde, soyons. Et ça sera au bar des Lauriers, qui est situé au 98 rue des Couronnes, un métro Couronne.
Voilà, alors après, pour le reste, on l'annoncera au fur et à mesure parce que les choses donc, sont un petit peu encore en construction. Le but, c'est, notre but, c'est évidemment de mobiliser pour le procès, mais aussi, en général, contre les centres de rétention. Et de ne pas oublier que l'incendie du centre de rétention de Vincennes, quand même, ça a été un gros manque à gagner pour la machine à expulser. Ça a été 280 places en rétention en moins. Et 280 places en rétention en moins pendant 5 mois, ça a permis quand même qu'il y ait moins de rafles sur Paris, moins de gens qu'ailleurs en rétention. C'est 280 places d'enfermement, de prison en moins. C'est une capacité de stockage qui a manqué à l'État. Et ça, c'est pas rien. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, au-delà de la solidarité avec les inculpés, il y a aussi la solidarité avec cette révolte et avec ce à quoi elle a amené. Et malheureusement, ça a été de courte durée, puisque le centre de rétention... Il a été reconstruit assez vite. Il est encore en cours de reconstruction, d'ailleurs, puisque là, il y a déjà 2 modules qui sont en fonction, 2 modules de 60 personnes. Il va y en avoir un autre. Et qu'ailleurs en France, c'est pas la construction des centres de rétention. Ça avance. Que d'ici la fin janvier, on va avoir le centre de rétention du Ménil-Amelot, le nouveau qui va ouvrir, où il y aura 240 places de rétention. Et ça, il ne faut pas qu'on se leurre, ça va faire des dizaines d'arrestations en plus, des dizaines d'expulsions en plus, et que, ma foi, on est quand même assez, au-delà de la dénonciation, concrètement, on est assez démunis pour empêcher ça, quoi.
Voilà, il faut quand même rappeler que le centre de rétention, c'est une prison pour étrangers, mais surtout, c'est une des pièces maîtresses de la machine, une des pièces maîtresses dans l'industrialisation de l'expulsion, hein, puisqu'on ne peut pas expulser aussi facilement s'il n'y a pas de centre de rétention. Première étape, l'arrestation. Enfin, première étape, la fabrication de sans-papiers, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des papiers qui n'ont pas de papiers et qui se retrouvent sans papiers. Donc, on fabrique des sans-papiers. Il n'y a qu'à voir les jeunes majeurs. Si on a des gamins qui ont 18 ans, qui sont en centre de rétention, à 17 ans, ils n'étaient pas en centre de rétention. Hein, ils n'avaient pas besoin de papier. Ils n'étaient pas sans papier. À 18 ans, ils se retrouvent, entre guillemets, sans papier. J'aime pas du tout l'expression sans papier. D'ailleurs, je préfère sans titre de séjour. Donc, arrestation. Quand il y a une arrestation, si on peut garder la personne, on la place en centre de rétention, en principe, le temps d'organiser la reconduite. Hein. J'aime bien l'euphémisation, ce n'est pas une expulsion, c'est une reconduite.
Oui, le centre de rétention, c'est un endroit vraiment où on stocke des êtres humains en attendant de trouver le moyen de les envoyer ailleurs. C'est vraiment ça. Et sinon, sur la fabrication des sans-papiers, enfin, on va dire que nous, on pense que c'est ce qui fabrique les sans-papiers, c'est carrément c'est les frontières, quoi. Et que les gens, ils devraient pouvoir avoir le droit de vivre là où ils peuvent ou là où ils ont choisi. Parce que des fois, ce n'est pas vraiment qu'ils ont choisi, c'est qu'ils ont été poussés à aller ailleurs. Et qu'on parle de l'Union européenne comme d'un grand progrès qui permet la liberté de circulation des personnes, sans doute pour les gens qui sont ressortissants européens. Mais l'Union européenne, ça fait surtout qu'en fait...
Pas tous.
Et oui, sans doute pas tous.
Pas tous, si on regarde un certain nombre de Roumains
ou
de Bulgares, ils ne circulent pas comme ils veulent. En principe, ils circulent comme ils veulent, mais ils sont expulsés comme ils ne veulent pas.
Mais au-delà de ça, l'Union européenne, ça fait qu'on va dire que les frontières, c'est comme si c'était un cancer et que grâce à l'Union européenne, il y a eu des métastases partout. C'est-à-dire que maintenant, les frontières, elles sont partout. Avant, au moins, on savait que la frontière, on la passait à tel endroit. Le danger, il était à tel endroit. Les flics, les douaniers, ils pouvaient nous arrêter à cet endroit-là. Bon, évidemment, il y avait la douane volante, mais c'était assez localisé. Maintenant, les frontières, elles sont partout parce que les gens, les contrôles faciès, c'est dans la rue, c'est dans les transports, c'est dans les banques, c'est partout. La frontière, elle est tout autour de nous, elle est disséminée. Et quand on n'a pas de titre de séjour, quand on n'a pas le droit officiel de vivre ici en France, c'est n'importe où sur le territoire où on est susceptible d'être contrôlé. Donc vraiment, plus de frontières, ça veut dire moins de frontières, ça veut surtout dire plus de frontières partout. Et nous, on pense que les frontières, c'est pas utile. Voilà.
Et si on reprend la Déclaration universelle des droits de l'homme, malgré les frontières qui ne sont pas remises en cause dans cette déclaration, chacun est libre de choisir son pays de résidence et de retourner dans son pays quand il le souhaite. Peut-être un petit mot pour conclure ?
Un petit mot pour conclure, je ne sais pas. C'est c'est d'être nombreux.
On peut aussi rappeler que les réunions du collectif ont lieu tous les mardis
à 18h30.
À 18h30 au CICP. Donc tout le monde est le bienvenu pour essayer de construire la semaine de solidarité et d'être le plus nombreux possible au procès le 25, 26 et 27 janvier 2010.
Voilà. Et puis au-delà de ça, partout où on est, comme on peut, chacun avec sa méthode, parce qu'il n'y a pas de méthode... Il n'y a pas de méthode miracle, essayez de s'opposer à la machine à expulser et à tout ça, aux arrestations, aux expulsions et aux gens emprisonnés, à la répression qui s'accentue. Voilà.
Et pour en revenir quand même aux gestes de solidarité qu'on peut faire avec les inculpés, peut-être je dis une grosse bêtise, hein, tu m'arrêtes, mais je crois que les avocats ça coûte très cher. Donc tu ne voulais pas orienter, moi j'oriente peut-être un petit peu. Donc on peut écrire, on peut faire un tas de choses, est-ce qu'il y a une...
On peut effectivement envoyer des chèques à l'ordre de CICP Vincennes, 21 Terre, l'adresse c'est CICP, 21 Terre rue Voltaire, et les chèques c'est CICP Vincennes, l'ordre. Effectivement, c'est vrai que les avocats ça coûte cher, et au-delà des avocats, l'argent qu'on a récolté, ça nous a surtout permis d'envoyer 150 euros par mois aux gens qui sont emprisonnés. Et puis quand ils sortent, ils se retrouvent sans rien souvent et leur permettre de redémarrer un petit peu pour ne pas être à la rue.
Voilà, donc c'est très difficile quand même en prison. Il faut pouvoir continuer, il faut pouvoir avoir un peu de sous. Les gens qui sont en tôle, ce sont des gens, les inculpés de Vincennes, ce sont des gens qui travaillaient, en plus des gens... qui sont pour plusieurs d'entre eux soutien de famille. Donc, c'est des conditions qui sont parfaitement odieuses.
Oui, oui. Tu l'as dit, merci. On n'osait pas demander de l'argent.
Yo, I got this plan to make some money. I want you to keep this shit to yourself. At 6:15 a.m., the truck pulls out of the post office on Lancashire and Wilshire. Now it makes one stop before it goes to Sacramento, which is a mail drop-off, our first federal loan and savings.
Whatever I could to keep my slang eventually you die. Living in a hard world, some are living lies. Son, you better rise up and open up your eyes. Shit ain't never easy, homie, people will connive. Better have a hustle if you mean to survive. Why you so greedy, can you tell us all why? Look, homie, believe me, your fucking head will fly. For the dollar, everybody is a target, that's real. Target is marked, your face silent, seal. You could be the next one, crossing in the path. But maybe if you do the man, you can avoid the blood.
De retour sur les ondes de Radio Dio. Non, on n'est pas de retour, on est toujours sur Radio Dio. Et vous écoutez l'émission numéro 0. À l'instant, c'était un extrait de Cypress Hill.
Un morceau qui s'appelle Money.
Money. Et donc voilà, on vient de s'écouter donc, l'émission singulier au pluriel qui datait de décembre dernier. Et une émission donc, qui est diffusée sur Fréquence Paris Pluriel. Et voilà, c'est à propos de l'incendie du centre de rétention de Vincennes. Voilà.
Et donc, on passe à l'agenda.
Voilà, comme ça, ça nous permet de faire une transition vers l'agenda, étant donné que, première chose, c'est que demain matin, donc toujours sur Radio Dio, donc vendredi, on sera le 15, eh bien, à 10h30, il y aura la rediffusion de la dernière émission Papillon, qui est aussi une émission de Radio Dio. Et la dernière émission Papillon, elle était faite en collaboration avec le collectif Sans Papiers. Voilà, donc demain, 10h30, Radio Dio.
Ensuite, on passe, il y aura la soirée RAS.
Ah oui, tout à fait, il fallait que je me racle la gorge. Donc ensuite, le soir même, vendredi 15 janvier toujours, il y a la soirée Rien à signaler. Donc toujours en lien avec Radio Dio, vu que Rien à signaler, c'est une émission féministe sur Radio Dio qui passe, elle, les mercredis soirs. Et elles organisent une fête dont l'un des buts est de récolter un peu d'argent pour le fonctionnement de leur émission. Et l'autre but, c'est de vous passer des courts-métrages de la scène féministe et queer internationale, de passer de la musique électro-dansante et autres musiques inqualifiables, mais de bon goût. Voilà, il y aura à dîner et le tout sera à prix libre. Voilà. Enfin, c'est les mets raffinés qui seront à prix libre. Et la soirée, je pense que c'est gratuit en plus. Voilà, donc ça, c'est à la Dérive, rue Basse Dérive, 31 rue Basse Dérive à Saint-Étienne. Et donc, c'est vendredi 15 janvier et ça commence, je ne sais pas à quelle heure, le soir. Voilà.
Mmh. Ensuite, il y a le mercredi 20 janvier. C'est l'Université Populaire qui organise une projection
solidaire
à la fac. Et donc cette projection, mercredi prochain, donc, ça sera sur autour de l'Afrique, donc avec un film Afrique 50. C'est un film documentaire réalisé par René Vautier. Et ensuite, et un deuxième film documentaire, c'est Le Petit Blanc à la caméra rouge. Et ça dure 52 minutes. Enfin bref, c'est réalisé par Richard Hamon. Et c'est à 18h30 à la fac, c'est en salle E01, c'est l'amphi E01 à la fac à l'université Jean Monnet. Ensuite...
Et on revient à la Dérive, hein. Et c'est le lendemain, donc le jeudi 21 janvier, et donc c'est en lien avec donc cette semaine de solidarité avec les inculpés de Vincennes, dont on vient d'écouter une émission. Et donc ce jeudi 21 janvier, à la Dérive, eh bien, il y a une soirée de soutien et d'information. Là-dessus, et donc c'est organisé en partenariat avec le collectif Sans Papier Saint-Étienne, l'émission de Radio Papillon, et puis le collectif Numéro Zéro. Donc, à rappeler que les bénéfices de la soirée seront donc pour les inculpés de l'incendie du centre de rétention de Vincennes. Quoi dire que lors de cette soirée, bon, voilà, il y aura des projections de documentaires, petits documentaires peut-être, témoignages, discussions. Et puis voilà, l'entrée c'est prêt libre, et puis il y aura une table de presse, et puis il y aura à manger aussi, donc pour se restaurer, et de la boisson aussi. Voilà. Donc voilà, donc c'est le jeudi 21 janvier, à partir de 19h à la Dérive. On rappelle l'adresse, 31 rue Basse Dérive, c'est juste derrière la fac, Tréfilerie.
Le vendredi, le 23 janvier.
Ah voilà, et donc le samedi 23, donc, nous vous proposons une activité un peu plus musicale dans cet agenda. Voilà, il y aura un concert, et si on avait envie de l'annoncer particulièrement, c'est parce que c'est un concert dans un squat, un concert de punk dans un squat. Ça faisait fort longtemps que ça n'était pas arrivé à Saint-Étienne. Donc ça s'appelle plus ou moins la Sphéro, le lieu, et il faut entrer rue Jean Barbier. Voilà, vous trouverez probablement. Donc c'est samedi 23 janvier, c'est organisé par la France Pu et ses amis. Et les groupes, ce sera Houdini du post-punk chilien, Pervers et Truand du néo-grunge stéphanois, et Chapelle Kinski une pâle copie de Cathédrale. Voilà, donc ça c'est le samedi 23 janvier à la Sphéro, entrée rue Jean Barbier. C'est vers le rond-point du Parc Expo.
Voilà. Et pour finir, le mercredi 27 janvier, il y aura pareil à l'Université Solidaire, une autre projection autour du climat et l'énergie. Donc énergie et climat, après le changement d'heure, l'heure des changements. Et c'est à la fac, toujours, à 18h30. Il y aura à l'amphi E01 et il y aura Pierre Cornu du CLAC 42, c'est le collectif local Action Climat de la Loire. Et donc, je pense qu'il y aura aussi débat, discussion.
Ok, et, voilà. Et si je peux me permettre, moi je veux revenir à cette semaine de solidarité avec les inculpés de Vincennes, puisqu'en fait, cette semaine, elle commence plus ou moins quand même dès demain. Et si vous êtes tout sur Paris, et à ce moment-là, demain par exemple, admettons vous êtes sur Paris, eh bien rendez-vous au CICP, puisqu'il y a une soirée, il y a une première soirée à ce sujet-là. Et le CICP, c'est dans le 11e arrondissement de Paris, et c'est au 21 rue Voltaire. Voilà.
Et ben voilà.
Et peut-être on a le temps de s'écouter. En exclusivité et en première, le jingle qui annonce cette soirée du jeudi 21 janvier à la Dérive.
Et puis après, on se quitte.
Et après, voilà, on se quitte, on se donne rendez-vous dans deux semaines. C'est jeudi 28
tout à fait.
Janvier.
Oui.
On ne sait pas trop encore ce qu'on va faire.
Non.
On ne sait pas.
Donc voilà, cette émission, elle sera rediffusée à 17h ce soir. Et donc, nous, c'était le numéro zéro et nous, on se retrouve dans deux semaines.
Et écrivez-nous un petit mail pour nous insulter sur notre boîte mail de l'émission numéro zéro. C'est émission radio, sans accent et tout attaché, @fastmail.net.
Salut.
Salut.
Ciao.
Le centre de rétention administrative de Vincennes était la plus grande prison pour sans-papiers de France. Le 21 juin 2008, Salem Souli, un retenu qui avait réclamé en vain ses médicaments, y mourait. Le lendemain 22 juin, les retenus organisèrent dans le centre une marche silencieuse qui fut fortement réprimée. Au cours de la révolte qui s'ensuivit, la prison est partie en fumée. Depuis l'incendie, l'État a multiplié les arrestations de retenus présents ce jour-là, dans le souci évident de faire des exemples et de dissuader quiconque de se révolter. 10 personnes passeront en procès fin janvier.
Dans le cadre d'une semaine de solidarité, une soirée de soutien aux inculpés et d'information sur les centres de rétention aura lieu le jeudi 21 janvier à partir de 19h au local La Dérive. 31 rue Basse des Rives à Saint-Étienne.
Plus d'infos sur le numéro 0.l'autre.net.
That's a rare privilege that everyone can hear. Everyone can see him. It's a pity, too, not only a rare privilege to hear him and see him, but it's also disappointing that everybody's not allowed to listen, to hear, and see this dynamic.